10h15, Airlines atterrit à l'heure. Bonjour Fabienne Sintès.
Bonjour Alex et tout le monde, à demain. Pour nous c'est parti, le 18-20 France Inter est ouvert. Installez-vous bien confortablement et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 26 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec une parole de reconnaissance.
La parole du chef de l'État à l'égard des pieds noirs victimes pendant la guerre de l'Algérie de plusieurs massacres, dont la fusillade de la rue d'Isly en 1962, crime impardonnable selon Emmanuel Macron, qui était cet après-midi face aux représentants des rapatriés d'Algérie. On y revient en début de journal. Une grève très suivie chez EDF. Plus d'un tiers des salariés n'ont pas travaillé aujourd'hui. Inquiet des sacrifices demandés par l'État au groupe public. Témoignage de grévistes à suivre. À suivre aussi le témoignage accablant d'une ancienne aide-soignante devenue députée sur les pratiques des EHPAD privés. Le procès d'un militant de l'ultra-droite poursuivi pour entreprise terroriste individuelle. Une rencontre virtuelle mais néanmoins très gênante en Italie entre des patrons italiens et Vladimir Poutine. Et puis pour finir, ce coup de tonnerre dans le monde de l'art avec le départ de la FIAC du Grand Palais à Paris.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir je vous emmène dans un voyage très spécial vers le futur. L'armée a très officiellement demandé à des auteurs de science-fiction d'imaginer les guerres du futur. Ça donne des récits d'implants dans nos neurones, de pirates apatrides, d'hyper-forteresses, et c'est aussi fascinant que glaçant. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Ouvrez les EHPAD, c'est peut-être ça la bonne nouvelle derrière ce livre de Victor Castanet qui fait tant parler de lui. Il agit comme un coup de point dans la figure et au moins permettra-t-il peut-être de faire le grand inventaire dont le secteur a besoin, y compris pour parler financement, opacité, rentabilité. Et nous, on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc une nouvelle étape du chef de l'État dans la réconciliation mémorielle franco-algérienne.
Après sa reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans l'assassinat du militant communiste Maurice Audin, après avoir qualifié le massacre des Algériens de Paris le 17 octobre 1961 de crime inexcusable, après le pardon demandé aux Harkis, ces Algériens qui avaient pris le parti de la France pendant la guerre d'Algérie, il était venu le temps de parler aux rapatriés d'Algérie, ces 800 000 pieds noirs qui ont quitté leur terre natale après l'indépendance en 1962. Emmanuel Macron avait donc invité aujourd'hui à l'Élysée tous leurs représentants. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Et le président a eu des mots très attendus pour les associations et les élus présents.
D'abord sur l'accueil, souvent glacial, reçu par les pieds noirs en métropole, mais surtout sur un massacre longtemps passé sous silence. La fusillade de la rue d'Isly, des dizaines de partisans de l'Algérie française, tués par l'armée de leur pays le 26 mars 1962 à Alger.
La France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République.
Pour faire bonne mesure, le président appelle aussi, sans les nommer, les autorités algériennes à reconnaître à leur tour le massacre d'Oran le 5 juillet de la même année. Pour la France, il souligne le caractère historique du moment.
Un discours ne règle pas 60 années d'injustice. Mais je voulais qu'aujourd'hui, ces quelques mots viennent apporter la reconnaissance sur des drames quant auxquels la République ne s'était jamais exprimée.
Des mots qui ont fait monter les larmes aux yeux de Robert Ménard, né à Oran il y a 68 ans.
Et c'est ce que je suis allé lui dire, ils m'ont touché. Touché.
Et tant pis si les amis du maire de Béziers, chez Marine Le Pen ou chez Éric Zemmour, dénoncent une opération séduction à destination d'une communauté, 5 à 6 millions de personnes, qui votent historiquement à droite et à l'extrême droite.
On peut y voir un discours de circonstance, je l'ai trouvé honnête, je l'ai trouvé sincère. J'ai entendu des mots que je n'ai jamais entendus.
Et qui viennent enfin contrebalancer, dit-il, d'autres mots, ceux du candidat Macron en 2017 sur la colonisation, crime contre l'humanité, des propos que le quasi-candidat de 2022 s'est bien gardé d'évoquer aujourd'hui.
Simon Le Baron, en direct de l'Élysée avec Laurent Maquetti, Emmanuel Macron qui doit ce soir commémorer également les 77 ans de la libération du camp d'Auschwitz sous Jean Castex. Le Premier ministre se rendra demain.
Ils craignent pour l'avenir et la santé de leur entreprise.
Les 165 000 salariés d'EDF étaient appelés à débrayer ou à manifester aujourd'hui par tous les syndicats et avec le soutien implicite, c'est un fait rare, du PDG lui-même, Jean-Bernard Lévy. Une grève qui fait suite aux décisions du gouvernement de mettre fortement à contribution les finances du groupe pour limiter la hausse des prix de l'électricité à 4%, avec à la clé une facture d'environ 8 milliards d'euros pour les comptes d'EDF. Bonsoir Maureen Suignard.
Bonsoir.
L'appel des syndicats a été très suivi, c'est l'un des des mouvements sociaux les plus massifs de l'histoire récente d'EDF.
Avec plus d'un tiers des salariés mobilisés aujourd'hui, 37% selon la direction. Le dernier mouvement d'ampleur l'année dernière avait réuni 25% des effectifs. Pas de grand cortège aujourd'hui, mais une série de débrayages, vous le disiez, à Ravzy, à côté de Bordeaux, à Chambéry, mais aussi à Lyon ou encore à Limoges. EDF fait bloc, selon Alain André, le secrétaire général FO Énergie Les Mines.
Le groupe est mobilisé, tous les étages ont bien compris qu'il se jouait quelque chose d'important pour eux dans cette situation. C'est une satisfaction, mais il est hors de question pour nous de s'arrêter sur une journée telle que celle d'aujourd'hui, fût-elle conclue avec succès.
Demain, les salariés se fonderont au cortège de la journée de mobilisation interprofessionnelle portant sur les salaires et l'emploi. Des salariés d'EDF inquiets qui estiment que cette mesure fragilisera leur entreprise, déjà très endettée. Le coût de cette mesure gouvernementale n'est pas négligeable. Vous le disiez, 8 milliards d'euros pour l'entreprise. Si le gouvernement se veut rassurant, dit être aux côtés d'EDF, les propos du patron des députés LREM, Christophe Castaner, crispe ce soir, lui qui dit ne pas comprendre que l'on puisse faire grève quand on a la fierté d'être dans une entreprise publique comme EDF. Fabrice Coudour est le secrétaire fédéral CGT.
C'est complètement bas de poser ce type de propos. Ça a un seul but, c'est d'opposer les salariés qui défendent eux seuls le service public de l'énergie aux citoyens qui, eux, souffrent des décisions politiques qui ont été prises année après année. Si lui, il doit être très fier dans son rôle, qu'il l'assume jusqu'au bout et qu'il porte enfin l'intérêt général, justement la sortie du marché, là, ça apportera des solutions pour tout le monde.
Abandonner le dogme de la concurrence, disent donc les syndicats ce soir, pour enfin faire baisser aussi la facture des Français.
Maureen Suignard du service économie de France Inter. Le gouvernement, pour sa part, qui assure qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'avenir d'EDF. L'État est évidemment à ses côtés, a assuré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. C'est une baisse record du chômage, moins 5,9% du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A au quatrième trimestre de l'an dernier, ce qui porte à 12,6% la baisse sur un an, les meilleurs chiffres en termes d'emploi depuis 10 ans, qui efface la hausse du chômage pendant la crise sanitaire. On y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly. La crise sanitaire et la cinquième vague de Covid qui continue d'affecter lourdement les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs. Ils manifestaient aujourd'hui devant le ministère de l'économie à Bercy. Le gouvernement va leur accorder une aide financière exceptionnelle et un allègement des cotisations sociales. Ce sont des témoignages qui choquent jusqu'au plus haut de l'État. Ces témoignages sur le scandale des EHPAD privés du groupe Orpea, publié dans le livre Les Fossoyeurs, sorti aujourd'hui. Dysfonctionnement révoltant pour le porte-parole du gouvernement qui appelle, dit-il, à des sanctions si les faits sont avérés. La ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, doit rencontrer dans les plus brefs délais le directeur général d'Orpea. En attendant, les prises de parole se multiplient. Dernière en date, celle d'Anne-Sophie Pelletier, eurodéputée France Insoumise, ancienne aide-soignante en EHPAD privé aux Opalines de Foucheron dans le Jura. Anne-Sophie Pelletier a écrit un livre, Une honte française, en 2019, après sa grève de la fin en 2017, pour déjà dénoncer ce scandale, bien connu des professionnels comme elle.
Ce qui me désole, c'est qu'en 2017, avec mes collègues à Foucheron, on dénonçait déjà tout ça. On a déjà dénoncé la maltraitance. On a dénoncé la maltraitance des soignants, cette maltraitance institutionnalisée des EHPAD privés à but lucratif. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Rien. Et ça me désole parce qu'en fait, il y a eu de nombreuses manifestations en 2018. Il y a eu des rapports de faits, notamment par ma collègue Caroline Fiat. Rien n'a été fait, rien. La dépendance, personne ne veut l'avoir. Personne. C'est que le début et je pense que ça va continuer. La Covid a fait que révéler quelque chose qui existait déjà et je pense, parce que maintenant, il y a quand même quelques familles qui se soulèvent, eh bien que tout ça va être dénoncé et qu'il va y avoir d'autres, je ne sais pas si on peut dire révélations, parce que finalement, ce ne sont pas des révélations, tout le monde le sait inconsciemment, ce qui se passe dans les EHPAD, mais il va y avoir d'autres choses de dites, oui.
Anne-Sophie Pelletier avec Faustine Calmel, le scandale des EHPAD privés. Fabienne, on y revient au téléphone sonne.
Absolument, la tension verbale ne retombe pas autour du dossier ukrainien.
Nouvelle accusation inquiétante aujourd'hui des États-Unis contre la Russie qui a massé, je vous le rappelle, 100 000 soldats à la frontière avec l'Ukraine. La vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman s'attend à ce que la Russie puisse faire usage de la force, dit-elle, peut-être d'ici la mi-février. C'est dans ce contexte très tendu qu'a eu lieu une étrange réunion aujourd'hui en visioconférence conférence entre d'un côté le président russe, Vladimir Poutine, et de l'autre des PDG italiens. Réunion embarrassante pour le pouvoir à Rome, car l'Europe tente de faire pression en ce moment sur la Russie. Mais les entreprises italiennes, elles, ont choisi de maintenir leur réunion business as usual. La correspondance à Rome de Bruce de Gazin.
Les grands patrons italiens n'ont pas voulu rater 2 heures de visioconférence avec Vladimir Poutine et le gratin industriel russe. En pleine crise énergétique et inquiet d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie, ils préfèrent maintenir les liens économiques. Seulement 3 entreprises, dont l'État italien est actionnaire, n'y auraient finalement pas participé. Le gouvernement de Mario Draghi avait demandé à la Chambre de commerce italo-russe d'annuler la réunion. Mais le porte-parole du Kremlin assure n'avoir reçu aucune demande officielle. Vladimir Poutine a ainsi pu sortir son atout économique en pleine crise diplomatique avec un pays dépendant au niveau énergétique. Le comité parlementaire pour la sécurité a bien estimé singulier de tenir une telle réunion dans le contexte actuel et sans prévenir le ministère des Affaires étrangères. Pragmatique ou cynique, Matteo Salvini lui affirme qu'égoïstement, dit-il, si quelqu'un fermait les robinets de gaz, contrairement à d'autres pays européens, l'Italie serait dans le noir et le froid dès demain. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et ajoutons sur le front diplomatique, pour tenter de faire baisser la tension, la France, pour sa part, réunissait aujourd'hui les conseillers allemands, ukrainiens et russes à Paris.
Allait-il passer à l'acte contre la communauté juive?
Un ancien militaire comparait depuis cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris pour entreprise terroriste individuelle. Il est soupçonné d'avoir préparé des actions violentes contre des personnes de confession juive. Ce sont ces messages de plus en plus virulents sur Internet qui ont alerté les autorités. L'enquête a montré à quel point cet homme de 38 ans était adepte d'une idéologie d'ultra-droite, ce qu'il ne conteste pas devant le tribunal. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
En revanche, il l'assure, en 1 an et demi de détention provisoire, il a changé.
Oui, il faut 1 heure au président pour détailler ce qui a été trouvé dans l'ordinateur du prévenu. Une fois, l'ancien militaire se prend en photo, le sigle SS tracé sur le bras. Une autre, il télécharge une photo d'Hitler sur laquelle est écrit un appel à tuer les juifs. C'était pour faire du buzz, j'ai honte de ça. Depuis, j'ai pris du recul sur le trentenaire, chemise noire, cheveux ras depuis le box. C'est une honte qui intervient à l'audience. Quand vous vous êtes entendu par la juge d'instruction, ce n'est pas quelque chose que vous condamnez, note le président. Il y a ses recherches aussi, tuer des juifs, extermination des francs-maçons, ou la recette pour fabriquer des cocktails Molotov, puis ses armes retrouvées chez lui. On est dans une escalade, insiste le juge. Je n'aurais jamais pu tirer sur qui que ce soit, j'ai menacé de mort 1 fois, c'était largement suffisant, se défend le prévenu, condamné en 2019 pour des propos envers un militant de SOS Racisme. J'étais en colère, je n'ai pas d'excuses, répète à plusieurs reprises celui qui ne semble pas avoir digéré d'avoir dû quitter l'armée après une blessure. C'est son 3e procès, le dernier il a été condamné pour détention d'armes. Cet après-midi, le prévenu est revenu à le président est revenu à plusieurs reprises sur cet épisode. Immédiatement après, a-t-il rappelé, vous achetiez un fusil mitrailleur. Ça fait penser aux tueries de masse.
Ariane Grissel en direct du Palais de Justice de Paris. Le procès doit durer jusqu'à vendredi. Allez, on termine avec cette décision qui agite le monde de l'art parisien. Le Grand Palais à Paris a choisi le géant international des foires d'art contemporain Art Basel pour succéder à la célèbre FIAC qui exposait les artistes, les galeries depuis près de 50 ans dans la capitale. Bonsoir Alexis Demeyer.
Bonsoir.
On s'y attendait à cette décision, mais ça n'en est pas moins un séisme.
Ah ouais, Art Basel déjà présent à Bâle, Miami et Hong Kong, et depuis l'annonce par le Grand Palais il y a quelques semaines d'un appel à concurrence pour la FIAC, les craintes d'une concentration des acteurs du marché de l'art se sont multipliées. Je viens de joindre le patron d'Art Basel, le franco-américain Mark Spiegler.
Nous sommes très heureux et soulagés également. Rien n'est acquis, même si les rumeurs couraient par ici et par là. Et c'est clair que c'est une énorme opportunité pour Art Basel, dans une ville qui est importante depuis des siècles au niveau culturel. Je comprends la crainte, mais nous faisons pas des foires copie-collées. On fait pas la même foire dans toutes les villes. Donc, je pense qu'on est loin d'une monopole ou d'une hégémonie.
Parmi les principaux concernés par ce bouleversement de l'écosystème artistique parisien, les galeristes traditionnellement associés à la FIAC, Marion Papillon est la présidente du comité professionnel des galeries d'art.
Le risque serait en effet qu'il y ait une moins bonne représentation des galeries françaises. Donc, il n'y a pas une inquiétude directe. Il y a évidemment des inquiétudes indirectes. Ça risque de redessiner un petit peu le paysage des foires. Donc, notre objectif est de tisser des liens avec ces opérateurs pour nous assurer en effet qu'ils s'intéressent de près aux répercussions sur la scène française.
Réponse dans quelques mois, Sébastien, puisque la première FIAC version Art Basel est programmée au mois d'octobre sur le Champ de Mars.
Alexis Demeyer, merci. Précisons toutefois fois que le festival de photos Paris Photo lui restera bien au Grand Palais l'an prochain.
Merci beaucoup Sébastien Legénie. On se retrouve dans peu de temps, dans Un jour dans le monde, pour Sous les radars. Voilà, j'y suis, vous allez nous parler littéralement de trafic de drogue sous-marin en Colombie. Notamment, ce soir, je vous emmène également dans un voyage de dingue vers les guerres du futur avec de vrais militaires couplés avec de vrais auteurs de science-fiction et vous découvrirez avec nous ce que ça donne. Le téléphone sonne, on parle des EHPAD ce soir avec cette question posée grâce au livre qui fait tant réagir. Comment mieux contrôler, mieux visiter, mieux savoir aussi qui sont ces EHPAD privés, quelle transparence, quels actionnaires, comment ne plus jamais lire ce genre d'histoire dans le privé comme dans le public d'ailleurs, et tout ça au 01 45 24 7000. La météo ?
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léas, bonsoir. Grisaille au nord, soleil au sud.
Oui, bonsoir Fabienne, c'est bonsoir à tous. On prend un peu les mêmes et on recommence. Demain, la journée se passera encore sous les nuages gris entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre-Val de Loire, jusqu'aux frontières belges, au plateau Lorrain et au nord Alsace, ainsi qu'entre le Val-de-Saône et la région lyonnaise. En début de journée, il y aura en plus des brouillards localement givrants. Sur la Normandie et les Hauts-de-France, il faudra aussi composer avec quelques petites pluies faibles l'après-midi. Sur la Champagne-Ardenne, ces petites pluies faibles pourront d'ailleurs être très localement verglaçantes et donner donc des routes glissantes. Dans les plaines du sud-ouest jusqu'aux Charentes, les grisailles matinales se dissiperont progressivement. L'après-midi se passera généralement sous le soleil. Et puis les régions méditerranéennes, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, mais aussi les hauteurs du Jura et des Vosges bénéficieront du soleil dès le matin, même si quelques brouillards pourront retarder l'arrivée, notamment en Provence.
Et attention aux températures très froides cette nuit.
Oui, une nouvelle fois, les températures passeront sous la barre du 0 degré quasiment partout. On attend moins 2 degrés à Marseille, Nantes et Toulouse, moins 4 degrés à Mulhouse et moins 5 degrés à Besançon. L'après-midi, prévoyez 3 degrés seulement à Nancy et à Lyon, 6 degrés à Bordeaux, 7 degrés à Paris, 9 degrés pour Caen, Lorient et pour Lille, 12 degrés à Aurillac et Montpellier, quand même 15 degrés pour Ajaccio.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France. À tout à l'heure après 19h.